Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, celui qui tousse, c'est Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieux avec vous également au 32-16 pour parler de la Belgique, tiens, qui réforme son droit au travail, flexibilité, déconnexion, semaine de 4 jours. Est-ce qu'il faut qu'on fasse la même chose, nous aussi, en France? On attend vos appels au 32-16. Il y aura RMC s'engage pour vous, ne ratez pas. Vers 14h35, on tentera d'aider Nathalie, à qui il arrive une histoire absolument UBS, qu'on lui demande de payer la taxe foncière pour un logement dont elle n'est pas propriétaire. Donc, évidemment, c'est embêtant, elle a essayé d'appeler les impôts, bien sûr, ça ne marche pas. On essaiera de faire quelque chose pour elle et puis on terminera avec les immanquables et on parlera notamment du PSG, Rémi.
Oui, une nouvelle polémique autour du bus du PSG. On parlera également de ces demandeurs d'emploi qui ne veulent pas toucher leurs allocations.
Oui, ou qui ne savent pas.
Qui ne savent pas, oui. En tout cas qui ne touchent pas, ça c'est sûr.
Et ça c'est sûr.
Ils sont nombreux.
Et on en parlera aux alentours de 14h40.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite à la réforme du jour. Ça se passe en Belgique où tout est en train de changer en ce qui concerne la réglementation sur le travail. Semaine de 4 jours, droit à la déconnexion, flexibilité. 2 ans après le Covid, la Belgique fait sa révolution et adapte le travail à la carte. Est-ce que ça marche, Rémi?
En tout cas, les salariés belges, tout comme les fonctionnaires, pourront effectivement bientôt ne travailler que 4 jours par semaine sans perte de salaire, car il ne s'agira pas de travailler moins, mais d'enchaîner des journées de 10 heures au lieu des classiques journées de 8 heures, 5 jours par semaine. Plus flexible encore, ceux qui le souhaitent, par exemple en cas de garde alternée des enfants, ont le choix de travailler davantage une semaine pour alléger leur rythme la semaine suivante. Seule contrainte, selon l'accord pour l'emploi approuvé la semaine dernière par la Chambre des représentants belges, les volontaires devront au préalable obtenir le feu vert de leur employeur. Mais attention, si le dirigeant refuse, il devra le faire pour une bonne raison et se justifier. L'idée de davantage de souplesse dans les rythmes du travail n'est pas propre à la Belgique. En décembre, ce sont 70 entreprises britanniques, 3300 salariés au total, qui doivent achever un test de 6 mois avec 4 journées de travail de 9h30 par semaine. Un projet pilote devrait aussi débuter en Écosse et au Pays de Galles en 2023, parmi d'autres pays. Il y a la Suède qui avait fait le test. Là, les résultats ont été assez mitigés. On en parlait tout à l'heure de la Suède. C'était en 2015. Finalement, on est revenu à une semaine classique. En revanche, en Islande, là, ça a très bien fonctionné et selon les syndicats islandais, bien aujourd'hui, les 3/4 des salariés en Islande travaillent 4 jours par semaine.
Voilà, et en Espagne, il y a aussi beaucoup d'expérimentations qui ont été faites. Le travail à la carte, est-ce qu'il faut l'importer en France, à votre avis, Emmanuel Dancourt?
Ah, moi, je suis complètement pour, mais vraiment. Alors peut-être aussi parce que je suis une indépendante et que je travaille déjà à la carte comme beaucoup, beaucoup d'indépendants qui travaillons beaucoup. Mais non, je trouve le système assez génial. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'une loi pour l'imposer.
Comme ça, on enlèvera les 35 heures.
Il y a déjà pas mal de choses qui se font en France, des essais à droite à gauche. Mais ce que je trouve intéressant finalement dans ce qui arrive, c'est que le rapport de force est inversé. Avant, c'était l'employeur qui disait « ma petite cocotte, tu viens tel jour de telle heure à telle heure ». Et aujourd'hui, c'est le salarié qui a beaucoup plus la main. Alors, on est dans la négociation, on est dans la conversation. Tout ça ne peut se faire qu'en discutant pour que ça convienne à chacun. Mais c'est vrai que ça permet, pendant 4 jours, d'être à fond sur le boulot et de se poser vraiment, mais avec un vrai droit à la déconnexion. L'idéal serait vraiment que le patron ou le client ne t'appelle pas si tu as pris ton jeudi ou ton vendredi, tu es déconnecté, vraiment.
Souvent, c'est aussi toi, en tant que salarié, qui n'arrive pas à te déconnecter. C'est-à-dire que le patron ne t'appelle pas, mais tu restes connecté quand même. Donc, ça, après, c'est aussi un problème pour
Et tu peux pas mettre d'heures sup, évidemment, sur la journée où tu viens pas, quoi.
Ça paraît normal.
Il faut que tout ça soit un petit peu encadré, mais c'est carrément jouable.
Daniel, le travail à la carte, c'est quelque chose qui t'intéresserait. Alors, tu peux pas le faire, mais on fait partie des métiers où on peut pas le faire. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas terminer à 14h15 en disant, bon, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser. Ça me saoule. Donc ça, c'est pas possible. Nous, on est obligés d'être là à l'heure. Mais si tu pouvais, est-ce que ce serait quelque chose qui te tenterait?
Bon, j'ai bien compris que la tendance nouvelle par rapport au travail était effectivement un, qu'on pourrait appeler une sorte d'allègement de la contrainte, un assouplissement des horaires, des jours travaillés. Je comprends pas la question l'importer ou l'imposer. Moi, je pense, comme tu l'as dit, Emmanuel, que c'est de la négociation dans l'entreprise, dans des fonctions qui le permettent, dans des secteurs professionnels qui le permettent. Pourquoi pas si c'est une négociation comme on le voit dans beaucoup d'entreprises. Parce que sinon, puisqu'on parle de flexibilité, pendant très longtemps, ce mot-là faisait peur à tous les syndicats, faisait peur à tous les partis de gauche. Flexibilité, c'était quelque chose plutôt de libéral, voire ultra-libéral. Parce que c'était en gros, à partir du moment où on fait flexibilité, eh ben, l'employeur fait aussi ce qu'il veut. Y a pas de, je te licencie quand je veux. Ça va aller dans tous les sens. Il faudra tout admettre. Puisqu'aujourd'hui, il y a des salariés qui veulent bien bosser 3 mois, puis s'inscrire au chômage, puis revenir 6 mois après.
Ça marche plus. J'ai 6 mois maintenant.
Non, mais de flexibilité encadrée, c'est ça que tu es en train de dire.
Non, il faudra comprendre tout le sens du mot flexibilité. C'est pour ça que je suis plus pour une négociation intra-entreprise, mais surtout rien de général à ce sujet, parce que sinon, le salarié n'aura plus de protection, il ne pourra pas s'en prévaloir. Si je viens quand je veux, si je travaille quand je veux, si je fais 3 jours ou plus d'autres, dans ces cas-là, l'employeur dira, ça me convient, ça me convient pas, là, moi, je vais pouvoir me séparer de toi comme j'ai envie, puisque toi, tu viens pour 2 mois, et puis après, tu vas te mettre au chômage. Bon, 6 mois plutôt. Et après, tu vas te mettre au chômage. Donc, ça va être liberté totale. Liberté totale, il faudra bien voir qui est gagnant, qui est perdant.
Oui, mais t'es obligé de légiférer parce que si, par exemple, tu vois, pour les 35 heures, il y a des gens qui étaient vraiment aux 35 heures. Et t'as des boulots où tu peux pas être aux 35 heures. Donc, quand tu faisais.
On enlève les 35 heures dans ce cas-là.
Ah, bien sûr.
On enlève.
Ceux qui ne pouvaient pas, ils ont eu des RTT. Là,
mais les 35 heures, ça a semblé être une mesure de gauche qui devait protéger les salariés.
Ça n'a pas marché. C'est l'erreur à ne pas recommettre.
Si tu légifères, ça permet aux gens qui ne peuvent pas avoir accès à la flexibilité d'avoir quelque chose en plus. C'est-à-dire que, en fait,
tu vas légiférer quoi et comment tu vas dire quoi dans la loi?
Tu vas dire par exemple que la semaine de 4 tu peux avoir la semaine de 4 jours ou autre chose par exemple.
Pour moi, c'est typiquement la mauvaise logique.
Il ne faut pas faire ça.
Au nom de la souplesse qui va dans le bon sens, on impose des contraintes à des gens qui ne sont pas concernés par cette recherche de souplesse.
Exactement.
Effectivement, on offre la possibilité en l'encadrant évidemment à des entreprises qui peuvent intégrer cette souplesse parce que leur activité le permet, mais le risque c'est qu'effectivement on veuille généraliser ça soit en faisant un droit opposable offert à tous les salariés, soit en donnant des compensations à ceux qui ne sont pas concernés, de sorte que ça fasse peser à nouveau des contraintes économiques sur toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas concernées. Ce qui était vraiment le problème des 35 heures, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises que ça a complètement plombé en termes de rentabilité. Moi je sais que je bosse dans un hebdo, on a besoin de toute la semaine, on a besoin des 5 jours de la semaine pour étaler la production et la mise en page des articles, parce que sinon on s'en sort pas. Donc on n'est pas concerné. Donc il faut absolument que ce système n'essaye pas de nous faire rentrer dans le truc aux chausse-pieds, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est pour ça que quand j'entendais Emmanuel tout à l'heure parler de rapport de force, moi ça m'effraie.
C'est surtout pas ça qu'il faut.
Une souplesse maximale encadrée, super. Rapport de force qui se modifie entre les employés et les employeurs. À mon avis, c'est une mauvaise logique.
Mais il n'y a plus de rapport de force, parce que de toute façon, les employés, aujourd'hui, quand ils sont pas contents, ils s'en vont. Donc, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver du boulot.
Oui, il y a une mode à la démission.
C'est de l'employé, ça, voilà, c'est sûr.
Exactement. On est avec Wesley, qui nous appelle de Tours. Bonjour, Wesley.
Bonjour à tous.
C'est Wesley.
Bonjour. Wesley, est-ce que vous êtes pour plus de flexibilité, vous, dans votre travail? Vous faites quoi, d'ailleurs, Wesley?
Alors, moi, je suis ingénieur en informatique.
D'accord.
Je travaille dans une grosse multinationale française, qui a racheté donc une boîte qui faisait des services autour de la carte à puce et des cartes à puce. Voilà. Donc moi, par rapport à tout ça, bien sûr, moi je suis pour la flexibilité. Encore une fois, ce qui arrive en Belgique, c'est une loi qui est votée pour donner de la possibilité de travailler 4 heures. C'est pas imposé.
4 jours. 4 heures, c'est peu. Enfin, moi, je veux bien, mais là, c'est compliqué.
On ne sait pas. Voilà. Non, pour travailler 4 jours par semaine, sur la base du volontariat, et sur accord en plus de l'employeur. Donc je vois pas où est le débat actuellement, parce qu'en fait il y a aucune obligation. Les sociétés qui voudront le faire le feront, celles qui ne voudront pas ne le feront pas. Et ils verront avec les utilisateurs, avec leurs employés, s'ils peuvent le faire ou pas, au cas par cas.
Sauf que dans le cas belge, quand même, si l'employeur refuse, il doit se justifier.
Ouais. C'est ça.
Ah.
Eh oui. Ah oui, donc en fait, là ça va, la loi belge va devenir plus dure finalement envers les employeurs qu'envers les salariés. Les salariés pourront choisir et les employeurs
devront justifier le refus d'accorder 4 jours ou une semaine où on travaille plus, une semaine où on travaille moins.
Il n'y a pas la présomption d'innocence pour les employeurs.
Wesley, vous aimeriez travailler 4 jours par semaine, vous?
Non, parce que je peux pas.
Ah oui, voilà. Bon, bah vous faites partie des gens qui peuvent pas.
Si je pouvais faire, mais non, parce que moi, j'ai décidé que mon travail, ce serait une partie de ma vie, mais ce serait pas ma vie.
Voilà. Ben, merci beaucoup Wesley. Alors Wesley qui dit effectivement le travail c'est une partie de ma vie mais pas ma vie. On voit dans beaucoup d'études qu'aujourd'hui par exemple le travail n'est plus la priorité numéro un des jeunes. Est-ce que ça c'est assez effrayant quand même?
Ça c'est un autre débat. Mais
pourquoi on parle de flexibilité? Pourquoi on parle de semaine de 4 jours? Parce que les gens veulent plus. Parce que aujourd'hui les jeunes en tout cas ceux qui vont nous succéder, et ben ils veulent plus travailler 5 jours. Ils veulent plus travailler 30 heures.
Ils vont dessiner un nouvel avenir.
C'est pour ça qu'on en parle.
Il y a des professions où c'est un peu obligatoire. Discutais avec ma pharmacienne qui me disait qu'elle n'arrivait pas à embaucher parce qu'elle trouvait personne qui voulait bosser le week-end. Or, une pharmacie, il faut que ce soit ouvert aussi le samedi. Et donc, du coup.
Sauf si la personne ne travaille que le week-end, Laurent.
Oui,
et que le reste de la semaine. Mais après, il faudra qu'ils assument des salaires qui correspondent au peu de travail qu'ils veulent accomplir. Mais comme la tendance est à ne plus consommer, ne plus partir en vacances, peut-être que les gens vont se contenter d'une vie avec moins de choses dedans.
Ce type d'emploi parce qu'il y a trop de contraintes.
On assiste à un pivotement de la valeur travail. On l'a vu notamment dans les métiers de l'hôtellerie, restauration aussi. Ils veulent plus faire ces métiers là durs. Ils veulent plus. Enfin, moi, je me souviens quand je suis sortie. Alors, j'ai pas fait une école de journalisme. J'ai fait une école de commerce. C'était boulot quand on sortait du truc. À aucun moment tu te serais dit je vais prendre une année sabbatique. Je vais quitter le boulot au bout de 6 mois. Je vais m'arrêter 6 mois. Je vais reprendre un boulot 6 mois, ça n'existait pas. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont des valeurs, la génération Z, et une façon d'équilibrer.
Pas tous, hein. Mais tu fais quoi après 30 ans, Emmanuel, en fait? Parce que je veux bien que tu te dessines cet avenir quand t'as 20 ans, que t'as la tête pleine de rêves ou d'idéaux. Mais enfin, 25 ans après, si tu dois construire une famille, des enfants, comment tu fais pour travailler si peu? Comment tu fais pour vivre, en fait?
Évoluer dans ta vie, changer.
Je suis effrayé par l'extension de la notion de boulot dur et exigeant. C'est-à-dire qu'effectivement, si bosser le samedi un week-end sur 4, c'est considéré comme un truc hyper exigeant, enfin, où est-ce qu'on va, quoi?
On peut pas faire une généralité, hein, quand même. Alors, on est avec Benoît Serre. Et quel plaisir de retrouver Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Merci, Benoît, d'être avec nous. On parle du modèle belge, nouveau modèle belge. C'est un peu le travail à la carte. Ça, ce serait bien en France ou pas?
Mais en fait, je me méfie un petit peu de ce genre. D'abord, vous avez noté que le modèle belge, il passe pas à 32 heures, pas plus qu'au total, d'ailleurs.
Non.
Donc, je comprends et j'entends les débats et je partage certains points. Sur un plan individuel, moi, le premier, je serais ravi. Mais le sujet que vous avez dans une entreprise, c'est quand même vous assurer deux choses. Un, le fonctionnement collectif de l'entreprise. Donc, dès lors que vous avez des populations qui peuvent et qui peuvent pas, vous avez un risque d'inéquité de traitement, de capacité de fonctionnement. Parce que si vous avez des services qui sont fermés le vendredi quand les autres sont ouverts, ça va être compliqué. On l'a vu pendant la crise Covid avec des managers qui étaient en télétravail quand leurs équipes étaient sur le terrain. Donc il y a un moment où il faut être quand même raisonnable. C'est la première chose. Et la seconde chose, à moyen terme, il faut quand même se méfier, parce que j'ai vu le modèle belge et j'ai vu d'autres tentatives. Dire aux gens, vous pouvez travailler jusqu'à 10 heures par jour, 11 heures par jour, il y a un moment où on va le payer en termes de santé au travail. Donc on ne peut pas courir tous les heures en même temps.
Bah, sauf s'ils ont plusieurs jours de congé. Après, c'est un choix.
Oui, je sais bien, mais c'est les moments où il faut quand même que votre boîte fonctionne un petit peu. Quoi. Mais, donc ça, c'est un premier point. Mais le point le plus préoccupant, et là je rejoins les débats que j'ai entendus, c'est que il est évident qu'il y a une demande aujourd'hui extrêmement forte, et les technologies le permettent dans beaucoup, beaucoup de cas, de flexibilité ou d'amélioration de la liberté d'organisation dans le travail. Et je trouve que la réglementation qu'on ne change pas en calculant toujours, c'est pour ça que le débat sur les 4 jours, 5 jours me paraît passé. Le vrai sujet, c'est penser différemment l'organisation du travail. On sait qu'on y arrive pour les gens qui sont en forfait jour, vous savez.
Ouais.
Moi, je pense que ce serait intéressant de réfléchir un peu différemment, je l'ai dit à plusieurs reprises, la NRH aussi, sur une extension des possibilités de semestrialisation, de manière à ce que les gens puissent panacher leurs jours tout en adaptant une forme d'organisation ou d'annualisation du temps de travail dans un certain nombre de cas. Parce que sinon, on risque de... Si on reste coincé sur la norme hebdomadaire, on s'en sortira jamais, en fait.
Ça veut dire qu'il faut travailler avec une notion d'objectif, quoi. C'est plutôt un objectif à faire, et après, quel que soit le nombre de...
Le travail au semestre, par exemple, et après, les gens ont une forme de liberté d'organisation de tout ça, et un certain nombre de jours, évidemment, le collectif prime toujours, mais vous vous rendez bien compte que quand vous réorganisez les métiers, par exemple, vous arrivez à concentrer sur deux jours des choses que les gens peuvent faire seuls, donc ils peuvent le faire à distance, et puis de manière le reste, ils le font ensemble. Donc c'est plutôt une approche un peu différente, mais ça c'est très difficile, parce que le calcul du temps de travail hebdomadaire en France, c'est le marronnier absolu de la mesure du progrès social. Donc dès qu'on y touche, tout le monde se met à hurler.
C'est comme les retraites. Benoît Serre, vous êtes aussi DRH chez L'Oréal. On sait que c'est une très grosse entreprise. Est-ce que vous voyez les demandes des jeunes qui postulent à des emplois changer par rapport à il y a 5-6 ans, par exemple?
C'est sûr que combien de jours vous avez de télétravail, c'est une question qui apparaît très très vite quand même. Ça, c'est sûr. Sachant que nous, on a un accord de télétravail jusqu'à 2 jours. Bon, ça se passe bien, mais voilà. Donc, on a ça qui sort. On a pas mal les engagements environnementaux, sociétaux. C'est vrai que L'Oréal est assez engagé là-dedans, avec l'université. Donc, ça fait partie des valeurs qu'on véhicule et des questions qu'on a. Et l'autre point, c'est les évolutions de carrière. Mais c'est vrai que L'Oréal est une boîte très très grande, donc il y a pas mal de possibilités pour le faire. Mais nous ne nous trompons pas, la dimension de la rémunération reste en tête quand même.
Ah, quand même, voilà, parce qu'on a tendance à dire les jeunes se foutent du salaire. Non, pas du tout.
Alors, j'entendais d'ailleurs, je ne sais pas qui parlait, donc je m'excuse, mais c'est vrai que vous vous foutez du salaire tant que vous n'avez pas de charge d'emprunt, ni de charge de famille.
C'est la question que je posais à la fin, c'est comment tu fais pour vivre après.
C'est vrai, notamment, c'est pour ça qu'on n'observe pas le phénomène de grande démission en France, parce que le CDI en France, il emporte des dizaines de trucs. Il emporte la protection sociale, ça on le sait. Mais il emporte aussi l'accès aux emprunts. Essayez de louer un appartement à Paris sans présenter vos 3 plus de salaire et un petit papier qui dit que vous n'allez pas vous faire virer demain matin. C'est impossible.
Oui, de toute façon, essayer de louer un appartement à Paris, c'est impossible.
De base, c'est impossible. En admettant que vous y arriviez. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'intégrer le fait que la rémunération reste en haut en fonction des charges qui pèsent sur vous. Donc c'est plus facile d'être assez cool avec l'AREM quand on est tout seul et qu'on a 25 ans que d'être cool avec l'AREM quand on a 35 ans, 3 gamins, 3 écoles à payer ou pas à payer d'ailleurs, plus une charge d'emprunt, plus ceci. Donc c'est pas une affaire de génération, c'est une affaire de charge.
Alors restez bien avec nous, Benoît Serre. Il y a peut-être pas mal de questions d'auditeurs. En tout cas, ils sont très nombreux à nous appeler sur ce débat. On a Christophe qui nous appelle d'Annecy. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour tout le monde.
Et Christophe, bonjour. Qui est chef d'entreprise paysagiste. Christophe, ça vous séduit, vous, le travail à la carte ?
Le travail à la carte, on le pratique déjà, parce que nous, on est aux 35 heures annualisées, c'est-à-dire qu'on travaille tous l'été à 37h30 et beaucoup moins l'hiver. Oui. Donc ça fait des semaines beaucoup plus courtes. Mais je soulevais, parce que j'ai regardé, moi, pour pouvoir travailler semaine de 4 jours, mais en faisant 37h30 l'été, c'est impossible, parce que mes employés vont être fracassés. Donc sa productivité, elle va descendre.
Parce que c'est un boulot physique.
Un boulot physique. Et en conclusion, c'est que non seulement pour le point de vue de l'organisation, vous n'allez pas pouvoir démarrer des tondeuses ou des pelles mécaniques à 6 heures devant la fenêtre des fenêtres des gens.
Oui, c'est compliqué, c'est vrai.
Ça devient compliqué. Et ça fracture aussi l'égalité entre les employés et les employeurs. C'est-à-dire parce que nous, on ne trouve pas plus de personnel. Parce qu'à côté, les gens, ils auront le choix entre travailler 4 heures dans des métiers plus faciles et puis après faire des métiers un peu plus compliqués comme dans le BTP, dans la restauration si on peut pas adapter ou la règle n'est pas la même pour tout le monde, on ne trouvera plus personne.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Christophe. Je vais revenir vers Benoît Serre. C'est vrai que cette histoire de travail à la carte, ça va exacerber finalement les jalousies les inégalités entre ceux qui peuvent. Il y a déjà ça avec le télétravail parce que on a tous des gens qui sont en télétravail et qui ont une vie, de loisirs absolument trépidante qu'ils n'avaient absolument pas avant. Donc, est-ce que ça peut fracturer la société?
À vous, Benoît. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est un très bon point, j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a déjà une différence entre salarié d'une grande entreprise et une petite entreprise. C'est une grosse différence. Entre salarié qui peut télétravailler et éviter de prendre la ligne 13 de la traversée qu'on habite Paris 2 ou 3 fois par semaine, donc c'est déjà une fracture entre les deux. Une troisième entre ceux qui ont des horaires très contraints et ceux qui sont un peu plus libres de le faire. Et on en rajouterait une quatrième légale, voulu par la loi, posé par la loi, entre des salariés où c'est un petit peu open bar et ils s'adaptent, et d'autres qui sont dans un modèle contraint. Je pense que ça peut faire non seulement exploser la société au sens de l'entreprise, mais ça peut également faire exploser la société au sens de la société. Avec une nouvelle génération de col blanc, col bleu, je pense que ça se terminera mal. Ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième sujet, ça pose des vrais problèmes de fonctionnement d'entreprise. Pourquoi ? Parce que du coup, vos métiers non éligibles à la liberté d'organisation du travail absolue deviennent super attractifs et les autres de moins en moins. Et donc, ce qui fait que personne ne veut aller dans les autres. Donc, vous aggravez la situation, vous créez une distorsion inter-entreprise et vous générez de l'iniquité de traitement de vos salariés, dont je rappelle que l'iniquité de traitement est punie par la loi.
Oui, c'est-à-dire qu'il y aura encore moins de gens qui vont vouloir faire de la restauration, ou effectivement être paysagiste comme Christophe, puisqu'on ne peut pas avoir de travail à la carte dans ces métiers-là.
Et puis, un autre point, j'entends certains dire qu'il faudrait 100% de flexibilité, 100% de télétravail. Ça veut dire qu'un jour, les emplois quitteront le pays. Parce que quand vous ne voyez plus du tout vos collaborateurs, vous dites, je vais les mettre ailleurs. Et ça s'est passé dans d'autres métiers. Donc, il faut faire un peu attention à tout ça. Je comprends tout ça à court terme. Individuellement, je comprends l'intérêt. À moyen terme, la responsabilité du politique et des DRH comme moi ou comme d'autres, c'est de se dire, attention, à moyen terme, il ne faudrait pas qu'on paye la facture deux fois plus cher.
Alors, on a Pierre qui nous appelle de Montpellier et Pierre qui est ascensoriste. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Estelle.
Alors Pierre, merci d'être avec nous sur RMC. Alors vous êtes fan de la semaine de 4 jours, hein, Pierre?
Tout à fait. Mais j'ai eu la chance de l'expérimenter pendant à peu près 2 ans dans une petite société. Et je peux vous dire que c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Parce qu'on avait donc des horaires qui n'étaient pas flexibles au niveau des horaires. On commençait le matin à 8h, on finissait à midi, on reprenait à 13h, on finissait à 18h. Mm-hmm. Donc c'est des journées de 9h.
Ouais.
Mais l'avantage, c'est qu'on faisait ça sur 4 jours, donc sur 2 équipes. Une équipe qui faisait du lundi au jeudi et une équipe qui faisait du mardi au vendredi.
Et ça vous a plu?
C'est à chaque fois, on a des week-ends de 3 jours.
Vous l'avez fait combien de temps, Pierre?
2 ans.
Et pourquoi ça s'est arrêté?
Alors la société a fermé.
Alors,
c'est une bonne raison.
Oui, alors évidemment, je ne sais pas si c'est un très bon exemple, Pierre, du coup.
Non, alors c'est, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Hein. C'est tout autre chose. Mais c'est, pour moi, je trouve que ça fait quand même 54 jours ou 52 semaines, donc 52 jours de repos supplémentaires dans l'année. Mm-hmm. On peut toujours échanger avec le collègue pour essayer de commencer le lundi, avoir le vendredi pour la semaine d'après, avoir aussi le lundi, ce qui fait que ça fait des week-ends de 4 jours quand on en a besoin. De poser des congés. Et puis, on était à être levé, faire 2 heures de plus, on est levé.
Oui, mais en tout cas.
À 18h, c'est pas non plus finir trop tard. Ça
non, c'est
les
sûr.
Métiers. Après, c'est toujours pareil. Il y a des métiers qui vont pouvoir l'adapter. Il y a des métiers qui.
Mais l'entreprise s'y retrouvait, Pierre. L'entreprise était contente. Non, le travail était fait.
Ah oui, oui, le travail était fait. Puisqu'en plus, quand on est sur le chantier, quand on fait quelque chose, on va perdre du temps à ranger les outils, à les re-rentrer, tout ça. Alors que là, on n'a pas le temps. On travaille 2 heures de plus. Donc on a moins de manutention, on a moins on peut travailler. Enfin,
donc c'était gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour vous.
Exactement.
Tout à fait.
Mais elle n'a pas capoté pour cette raison-là.
Non,
c'est peut-être un départ en retraite. Hein.
Ben merci en tout cas, Pierre, pour ce témoignage. Voilà, Pierre qui a bien aimé la.
Oui, mais là, encore une fois, tout le monde s'y retrouvait. Ben il y avait une négociation à l'intérieur.
Et parce que tout le monde pouvait le faire. Mais les sociétés où t'as celui qui va être obligé d'aller au boulot tous les jours, de se taper les embouteillages, etc. Et celui qui est tranquille à l'île de Ré, bon, il y a un moment où ça ne va pas.
Des journées de travail de 10 heures, ça va peut-être bien un moment, mais au bout d'un moment, ça doit être un peu claquant.
C'est le mec qui ne peut pas faire ça, et puis après, il va avoir 3-4 jours de suite.
Moi, c'est mon rythme, hein. Mais plus, hein.
Bah oui,
et puis, oui, mais ça dépend des métiers.
Et puis après tu demandes, et après ça peut être un choix. Merci en tout cas à Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, d'avoir été avec nous sur ce débat. Et puis on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France qu'en Belgique en termes de flexibilité?
Ah bah là c'est sûr, c'est oui. Hein. Là,
c'est oui. Bah, oui,
ah, évidemment.
Peut-être ceux qui ont été sur nos réseaux sociaux, c'est oui à 67%.
Ah, j'aurais pensé que c'était 90.
Bah oui, c'est pas. Moi je suis très étonnée. Je pensais que ce serait peut-être une plus grosse majorité. Mais Benoît
les gens, tu leur proposes de pas en foutre une rame, il y a du monde.
Il a été extrêmement convaincant et je pense que les chiffres ont dû changer durant le débat. Dans un instant, histoire incroyable. Ce sera RMC s'engage pour vous avec Nathalie. Alors Nathalie, on lui a demandé de payer une taxe foncière, mais pour un logement dont elle n'est pas propriétaire. Évidemment, normalement, elle ne devrait pas le payer, mais bien sûr, vous connaissez les impôts, c'est compliqué. Et on va tenter de l'aider. Et puis après, il y aura les immanquables et plein de choses juste pour toi, Daniel. Tu vas adorer. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h30 sur RMC, RMC Story, et c'est le moment d'accueillir Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi,
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie, vous avez été contactée par une auditrice qui n'arrive pas à faire valoir ses droits auprès des impôts. Elle galère,
Nathalie Gisbert. Elle travaille à la Poste. Elle a 57 ans. Elle est mariée et propriétaire de son logement. Au mois de mars, elle reçoit un courrier étrange de l'administration fiscale qui lui apprend qu'elle posséderait une autre maison dans la même commune à moins d'1 kilomètre de chez elle.
Cette adresse, je ne la connais absolument pas. Je ne possède ni garage ni quoi que ce soit à cette adresse-là. Donc, j'ai pris ce courrier et je me suis déplacée dans mon centre des impôts où j'ai vu un agent qui a fait suivre, du moins je le supposais, ma demande.
Sauf que début septembre, elle reçoit cette fois-ci un avis de taxe foncière.
Ah,
1117 euros pour cette fameuse maison qui ne lui appartient toujours pas.
Le problème que j'ai, c'est que je n'ai rien pour prouver que je ne suis pas propriétaire. C'est kafkaïen comme situation, parce que c'est la personne qui a acheté qui a les papiers. Alors moi, comme je dis, je peux bien payer une taxe foncière si on me donne l'habitation avec, etc.
Oui, elle est drôle, Nathalie, elle prend ça avec le sourire, on adore. Peut-être que nous, on le prendrait moins stoïquement. Mm. Mais enfin, en attendant, elle est coincée, elle doit payer. Oui. Pour une maison qui n'est pas la sienne, donc elle le saurait.
Oui, a priori, elle le saurait, elle a vérifié vraiment cette maison ne lui appartient pas. Sauf qu'elle a beau appeler, envoyer des mails, se connecter au site impots.gouv.fr, rien n'y fait, rien ne bouge. Nathalie a carrément mené sa petite enquête, elle est allée sur place, elle a déposé un petit papier dans la boîte aux lettres
de la maison.
Et une personne l'a rappelé, une dame qui est la propriétaire de la maison. Et donc Nathalie lui a dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce qu'avec les impôts, je galère. Cette dame lui a dit, écoutez, je vais faire le nécessaire avec mon notaire. Sauf que bon, pour l'instant, rien n'a bougé. Résultat, elle nous a contacté Nathalie et nous, on a contacté la Direction Générale des Finances Publiques. Et ils nous ont dit la chose suivante, ce bien a effectivement été attribué à Nathalie par erreur. Un problème de saisie informatique, selon toute vraisemblance. Grâce à notre intervention, heureusement, la situation de Nathalie est en train de se régulariser. Notre auditrice ne sera pas prélevée de cette taxe foncière, 1117 euros quand même cette année. Et on nous a assuré que l'erreur ne se reproduira pas non plus l'année prochaine. L'administration, en revanche, doit désormais réaffecter, vous avez compris, la maison au bon propriétaire. Et ça, nous dit-on, ça peut prendre du temps.
Sauf que si ça leur permet de toucher la taxe, je pense qu'ils vont
peut-être
le faire
que ce sera plus rapide.
Eh ben non, parce que le problème, c'est qu'en ce moment, les impôts sont dépassés, débordés.
Absolument. En particulier, le service de publicité foncière, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le service qui est chargé, en fait, de changer de propriétaire après une transaction immobilière, la vente d'un bien, par exemple. Un sénateur a carrément interpellé cet été le gouvernement sur les délais entre la vente et le changement de propriétaire, l'enregistrement du changement de propriétaire, jusqu'à un an et demi.
Ah bon ?
Absolument.
C'est énorme.
Énorme. Le ministère de l'Économie est tout à fait conscient du problème. Le service fait face à de grosses difficultés depuis 2017, nous dit-on, auxquelles se sont ajoutés le Covid et les départs en retraite. Et donc, ce sera difficile de former des gens pour ce service qui est très particulier. Bercy, en tout cas, assure tout mettre en œuvre pour améliorer la situation. Et d'ailleurs, c'est dans cet objectif que le gouvernement a lancé, mais il est encore trop peu connu, il y a un an, un outil sur la plateforme impots.gouv.fr. L'onglet s'appelle « Gérer mes biens immobiliers » et il vous permet en fait de déclarer des changements ou des erreurs de l'administration directement en ligne. Et donc, a priori, ça accélère le traitement des dossiers.
Merci pour toutes ces précisions, Amélie. Et puis, bravo pour Nathalie qui n'aura certainement pas à payer la taxe foncière pour un bien qu'elle ne possède pas. Ce qui est bien sûr mieux pour elle. Est-ce que vous avez du nouveau dans notre dossier fétiche de la SNCF, Amélie? Que se passe-t-il?
Eh bien, écoutez, je peux vous dire qu'on a relancé la SNCF aujourd'hui parce que depuis, on a reçu d'autres témoignages que celui de Fabienne, de personnes qui, je vous le rappelle, n'arrivaient pas à prendre un billet pour quelqu'un d'autre, à moins d'effacer son profil. Donc on a relancé la SNCF, SNCF Connect précisément, à ce sujet. On attend toujours la réponse, donc s'ils nous écoutent, n'hésitez pas à nous répondre.
Voilà. Et puis s'ils nous écoutent et qu'ils mettent une alerte, qu'on puisse, à un moment, quand il n'y a pas de place dans un train, être alerté de quand une place se libère.
Bon, la SNCF essaye de parler du PSG ou de char à voile et tout, ils répondent bien dans ce cas-là.
Oui, mais enfin, je ne peux pas demander au patron de la SNCF, si tu veux, de mettre des alertes pour mes billets, tu vois. J'aimerais qu'il le fasse aussi pour d'autres gens. Mais c'est vrai que ce serait pratique. Merci Amélie Rosic, tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi, dans un instant, les immanquables. On parlera du PSG. Daniel, avec le bus du PSG qui roule à vide. Et puis le boycott du jour, ça tu vas adorer, la ville de Paris. Il n'y aura pas de fanzone ni d'écran géant, dis donc. Avec Anne Hidalgo, elle se désolidarise de la Coupe du Monde. Et puis l'affaire Julien Bayou. Première interview de Julien Bayou aujourd'hui suite à l'affaire et aux déclarations de Sandrine Rousseau. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi. Les immanquables.
Et on va commencer tout de suite, Rémi, avec le boycott du jour, juste pour faire plaisir à Daniel.
Et la ville de Paris n'installera pas de fan zone ni d'écran géant dans l'espace public pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar. Ce sera à partir de fin novembre. En cause, les conditions de l'organisation de l'événement d'un point de vue environnemental ou des droits humains. La même décision a été prise par les villes de Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims, Strasbourg, Lille ou encore Rodez.
Mais Daniel, rappelle-moi parce que j'ai un trou. Mais qui sponsorise le PSG? Je ne sais plus. Qui est-ce?
Je sais pas, Estelle, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus entendre.
Ah, le Qatar, c'est vrai, pardon.
Attends, la dernière, c'est pas ça.
D'accord.
Ça a été lâché, David Béliard, adjoint à la mairie de Paris. Ça y est, il l'a dit.
Il a dit quoi?
Au moins, il est honnête. Il regrette que le PSG appartienne au Qatar.
Ah oui.
Au moins, c'est clair et net. Parce que bon, Anne Hidalgo, maintenant, elle va avoir du mal à se faire inviter en loge après ce qu'elle fait.
Mais je crois qu'elle avait pu y aller.
Je crois qu'elle avait pu y aller, mais c'est très bien. Donc. Le PSG ne doit plus appartenir au Qatar, donc on arrête. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de choses dans lesquelles le Qatar est impliqué. Donc on arrête d'être un allié commercial et militaire de ce pays, comme beaucoup d'autres pays occidentaux. 182 millions d'euros, c'est l'impact économique du PSG en Ile-de-France. 2000 emplois indirects. Pareil, en Ile-de-France, ça c'est ce que le PSG fait. Le PSG fait vivre tout le football français, directement, indirectement, et indirectement, quasiment tous les autres sports aussi. Si le PSG n'appartient plus au Qatar, souhait de David Béliard, je pense que dans la foulée, un fonds d'investissement américain va se jeter dessus, puisque c'est eux qui achètent principalement les clubs. Il faudra, à l'intérieur de ces fonds d'investissement, analyser il y a quoi, il y a qui, comme acteur économique. Il faudra bien décortiquer tout pour correspondre aux vœux de David Béliard et de la mairie de Paris. Je ne sais pas quel est le monde en fait qu'ils veulent vendre, David Béliard et ses amis écolos, à part peut-être le monde du Festival des Tartuffes. En parlant de festival, ça n'a rien à voir, mais un petit peu quand même.
Ah.
Un petit peu quand même. Le Doha Film Institute a été financeur qatari, donc forcément, d'une dizaine de films lors du dernier Festival de Cannes. Vincent Lindon, qui a fait une sortie récente sur la Coupe du Monde de foot, était le président du jury du Festival de Cannes. Visiblement, là, ça ne l'a pas gêné à ce moment-là.
Mais il ne le savait peut-être pas.
Peut-être qu'il ne s'est pas au courant. Voilà, mais peut-être que ces gens-là, finalement, ne sont au courant de rien. Peut-être qu'ils sont un peu bêtes.
Ou tu as des indignations à géométrie variable
aussi. Peut-être que ces gens-là, finalement, ne réfléchissent pas à tout. Mais c'est le propre d'un Tartuffe. Vous savez que la pièce de Molière, c'était Tartuffe ou l'imposteur.
Voilà. Laurent Mandrieux, alors là on s'est un peu égaré parce qu'on parle du
non,
Paris Saint-Germain.
Pas vraiment égaré.
Non, c'était pas vraiment égaré.
Daniel Riolo qui cite du Molière.
Non, mais là on.
C'est pas vraiment égaré.
Et là on parle aussi de la ville de Paris qui a décidé de ne pas installer d'écran géant et finalement de boycotter cette Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que vous, ça vous semble finalement logique parce que voilà, il faut faire des économies d'électricité, etc. ou alors c'est juste une posture?
Non, c'est clairement une posture. D'abord, est-ce que ça va être très fréquenté les fan zones en plein air en décembre?
Non.
Voilà, c'est déjà un peu.
C'est du boycott à la petite semaine, quoi.
C'est comme Béliard qui dit je regrette que PSG appartienne au Qatar, mais en fait ça dépend pas de lui, donc en fait il se donne bonne conscience à bon compte. Facilement. Et par ailleurs, c'est vrai que si on considère la dimension purement écologique du problème et non plus la dimension de droit de l'homme, moi j'aurais aimé que la mairie de Paris pousse la logique jusqu'à son terme et ne veuille pas organiser les JO à Paris, quoi. Voilà. Au moins on aurait été dans une forme de cohérence.
Ils ont boycotté certains sponsors.
Oui, mais enfin, moi, j'aurais préféré.
Oui, c'est quand même qui va payer,
c'est quand même un événement écologiquement douteux.
Voilà, ils avaient refusé Total, notamment. Emmanuel Dancourt, vous, ça vous gêne de ne pas pouvoir faire la fête à Paris devant un écran géant?
On parle bien à moi, là.
Ouais,
ça n'a rien à foutre.
Ah, d'accord.
Elle s'en fout, la télé à Dijon.
J'ai dit rien à foutre.
Dans le salon, chauffé à 19.
Hein?
Ouais. Dans la télé, toi, à Dijon.
Elle chauffe à 22.
Non, mais je vous écoute, je vous regarde. Et voilà, quoi. Après, il faut se souvenir que le Qatar est quand même fournisseur de gaz. Donc. Faut marcher sur des œufs avec ça, quoi, malheureusement.
Mais la Russie aussi.
On va passer à la prise de parole du jour.
La prise de parole du jour, c'est celle de Julien Bayou, accusé par son ex-compagne de violence psychologique.
Il va aller follow, là,
Il sort du silence dans les colonnes du journal Le Monde. C'est la première fois. L'ex-secrétaire national du Parti Europe Écologie Les Verts, qui a fini par démissionner de son poste après les révélations de cette affaire par Sandrine Rousseau, accuse la députée d'être allée trop loin. Selon lui, on ne balance pas à une heure de grande écoute, elle avait fait à la radio, la situation psychologique de quelqu'un qui souffre ou des accusations sans éléments. Le privé ne doit pas être instrumentalisé à des fins politiciennes.
Ah.
Emmanuel Dancourt, est-ce qu'elle est allée trop loin, Sandrine Rousseau, dans cette affaire?
Alors, moi, j'essaye de pas hurler avec les loups et de ne pas hurler non plus avec les loups Alpha, qui est donc ce groupe qui a priori surveillait Julien Bayou pour avoir lu tous les articles que Libération a écrit à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai lu surtout, et j'aimerais quand même qu'on le rappelle, c'est des femmes blessées, des femmes qui sont dans la souffrance, des femmes qui ont été utilisées, jetées, collectionnées.
Alors on parle de Julien Bayou, Emmanuel,
oui, on parle de Julien Bayou, on est d'accord.
C'est de la morale.
De quelqu'un, on est sur la morale, tout à fait, mais de quelqu'un qui a peut-être rien fait de répréhensible, mais s'il est quand même question de violence psychologique, qui utilise son statut et puis sa stature aussi, c'est quand même un bel homme, hein, Julien Bayou, pour un peu utiliser les femmes.
Enfin, pour l'instant, on n'en sait rien, Emmanuel.
Kleenex, indépendamment de ça.
Enfin, alors,
pour l'instant,
femme,
on est peu
dans le peut-être.
En fait, tu fais ton riolo, toi.
Bah, je fais mon riolo, mais je précise.
J'ai dit juste, j'entends la souffrance de ces femmes. Après, est-ce que tout cela est pénalement répréhensible? Est-ce que tout ça est pénalement... T'as lu les articles de Libération? T'as lu ce qui s'est dit?
Moi, j'ai
lu tout ce qui était possible de dire là-dessus.
Non, mais toutes tes phrases, tu les as commencées par peut-être.
Non, mais dans l'enquête de Libé, ce week-end, effectivement, il y avait des filles qui disaient... Mais enfin, il y avait un peu les deux.
De l'autre côté, il y a Sandrine Rousseau, parce que tel était ton sujet, Sandrine Rousseau, qui a essayé de faire avancer la cause des femmes et deux fois de manière un petit peu radicale.
Non, Sandrine Rousseau ne fait pas avancer la cause des femmes. Sandrine Rousseau veut éliminer les hommes de la planète Terre. C'est pas exactement la même chose.
Laissez-moi finir. Et après, tu pourras réagir.
Ah, c'est pas ce qu'elle dit.
Sauf que le problème, c'est peut-être que là, ça a été peut-être un petit peu maladroit et que de fait, Sandrine Rousseau a donné prise justement à tous ceux qui ont du mal, qui ont peur du changement, à tous ceux qui ont du mal avec ces idées-là et qu'il faut faire avancer. Et c'est vrai que nous, c'est nous.
Les idées Sandrine Rousseau, pour les faire avancer, Emmanuel?
Nous, qui sommes, nous, dont je fais partie, qui sommes très impliqués au quotidien dans les violences sexistes et sexuelles, on aurait envie de tout envoyer péter, on aurait envie d'envoyer péter 2000 ans de patriarcat, et des fois ça prend des formes un peu radicales et sans doute totalement inaudibles, et c'est sans doute l'erreur de Sandrine Rousseau, avec ce petit détail qui n'en est pas un, qu'on parle d'un opposant politique, enfin d'un opposant politique, pas totalement, mais une sorte d'adversaire en même temps, et évidemment, et au milieu de ça, et bien évidemment que retour du boomerang à l'envoyeur, on a Julien Bayou qui aujourd'hui se victimise.
Mais ce serait mieux qu'il n'y ait pas
d'homme.
Ce serait mieux qu'il n'y ait pas d'homme dans ce parti, comme ça, ça serait plus simple. Je n'ai jamais dit ça, bon sang.
Non, mais c'est forcément.
C'est simpliste comme manière de réagir,
Daniel. Non, mais c'est forcément la route que tu prends.
Non, Daniel.
Dans le parti, c'est pas la route que tu prends.
Elle n'est pas Europe Écologie Les Verts, Emmanuel.
De toute façon, pardon d'être intervenu, j'en ai strictement rien à cirer, ça. Regarde, c'est leur tambouille interne.
Qu'ils se flinguent entre eux.
Là, c'est très bien. On comprend parfaitement le fonctionnement de ce parti, qui est complètement sectaire, tyrannique, robertsquiériste. Ils veulent tous se flinguer entre eux. C'est très bien.
Est-ce qu'Emmanuel peut terminer?
Elle n'est pas finie, pardon.
T'arrêtes pas de me couper la parole. Donc, il va réutiliser évidemment ça parce que maintenant le vent est de son côté. Puis, alors, les gens savent pas très bien où se placer. Tout le monde voudrait être du bon côté de l'histoire.
Toi, tu sais où te placer, toi?
Non, je viens de dire justement, je prenais de la hauteur de vue. Tout le monde essaie d'être du bon côté de l'histoire, mais on ne sait pas très bien où est le bon côté de l'histoire. Et voilà, il va essayer de se réimposer dans son parti grâce à ça. J'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. Mais moi, je voudrais juste qu'on n'oublie pas les victimes au milieu de tout ça. Donc voyons la suite.
Les victimes
C'est pas parce que c'est un mec qui est dégueulasse avec les femmes que c'est pénalement répréhensible.
Voilà. Pour l'instant, je crois qu'on ne sait pas.
Et viens pas me voir, Julien Bayou.
Laurent Dandrieu, ça vous inspire quoi toute cette affaire?
Moi, ce qui m'inspire surtout, c'est que je trouve la défense de Julien Bayou un peu pathétique. C'est-à-dire que le type attend d'être mis en cause par Sandrine Rousseau pour s'apercevoir que la méthode avec laquelle procède Sandrine Rousseau pour dégager les hommes est un peu discutable et que effectivement il fait peu de cas dans toute cette logique des droits de la défense, de la présomption d'innocence et du respect aussi de la vie privée. Et donc voilà, on est encore dans cette même logique dont on parlait la dernière fois sur ce plateau, sur les gens de gauche tout à coup. Quand ça leur tombe sur la gueule, ils s'aperçoivent que, ah bah non, quand même, il y a peut-être des limites à pas franchir, on peut pas.
Ils veulent couper des têtes, mais.
Donc, ça m'inspire ça. Parfois. Ça m'inspire aussi que, effectivement, Sandrine Rousseau veut bien lutter contre le patriarcat quand il est occidental et blanc, mais par contre, quand c'est en Iran, elle s'en fout, ou alors.
Elle s'en fout pas, elle a la manif,
parce qu'elle sentait bien que ça commençait à poser un problème, qu'elle ne pose pas la question du patriarcat islamique. Mais bon, voilà.
Ça ne lui pose pas de problème, Sandrine.
Elle est allée à la manif, bon, bien mal, lui en a pris parce qu'elle a été sifflée.
Ah ben, je sais pas, elle a dit qu'elle ne l'a pas été.
Non, elle n'a pas dit qu'elle ne l'avait pas été, non. Elle dit qu'elle n'avait pas été la seule à être sifflée. Voilà, elle s'est fait un peu
consoler
par Laurence Rossignol, ça a été un petit peu délicat pour elle. Les absents du jour, Rémi.
Selon un rapport sur le non-recours à l'assurance chômage du ministère du Travail qui vient d'être rendu public, au moins 25% des chômeurs ne demandent pas l'allocation à laquelle ils ont droit. C'est un taux comparable à celui observé sur d'autres prestations sociales. Parmi les pistes évoquées pour expliquer le phénomène, c'est la méconnaissance de leurs droits pour ces demandeurs d'emploi, ou encore la crainte de la stigmatisation ou de contrôle par Pôle emploi.
Est-ce que finalement Pôle emploi communique assez, Emmanuel Dancourt, parce que là on a quand même, enfin c'est quand même hallucinant que, je veux dire, un chômeur sur quatre ne sache pas qu'il a droit à des aides. Ça paraît aberrant.
La réponse est non. Moi j'ai été à Pôle emploi très longtemps quand j'étais intermittente du spectacle. C'est quand même nébuleux, mais en fait les gens de Pôle emploi vont pas toujours très bien non plus. On sait que c'est une entreprise qui a eu des, enfin un service pardon, qui a eu des soucis aussi. Je trouve ça énorme. Enfin les chiffres que tu annonces, c'est incroyable.
Au moins 25%, c'est estimé à 25%, peut-être même 42%.
Dont la plupart des gens ne savent pas en fait, ils en auraient besoin, ils savent pas qu'ils ont accès à ces aides. Enfin là, il y a un déficit total finalement de sa fonction, mais on sait aussi que à Pôle emploi c'est pas rose non plus. Donc je sais pas comment sont les gens là-bas et s'ils sont bien formés ou pas. C'est une vraie question.